Pas d'interrogation. Donc un enfant qui se trouve à peu près à 30 mois, inconsciemment, comme la mère, puis comme le père. Fantasmatiquement, bien sûr. Hein. Donc on appelle fantasme cette déformation d'une approche donc psychique du parent-objet. Non, ça n'appelle pas de question. Alors donc le titre aujourd'hui était la psychanalyse pour sortir de l'échec. Alors je vous ai dit tout à l'heure que j'étais souvent navrée donc d'entendre véhiculer des choses même sur des supports très médiatiques, des choses qui sont erronées quant à la psychanalyse. La psychanalyse ne s'adresse pas fatalement à tous, mais c'est vrai qu'on pourrait partir du principe que tout le monde relève d'une analyse. Donc ça fait souvent bondir certaines personnes, et les personnes qui bondissent sont celles qui n'ont pas eu d'expérience du divan. À ce stade, voulez-vous qu'on explique donc ce qu'est une séance analytique ? Alors, je vais demander, voilà, peut-être une formulation de questions. Une question précise, vous les posez ? Une séance analytique. Oui, alors une séance analytique aujourd'hui, hein, parce que lorsqu'on lit le livre de Freud, La technique analytique, effectivement, ce n'est pas tout à fait ça aujourd'hui. Une séance analytique peut se passer donc aussi bien en face à face que sur un divan. Et là aussi, moi, je trouve lamentable qu'on entende ou qu'on lise que la psychanalyse, la pure, la dure, se fasse allongée. C'est absolument faux, puisque la psychanalyse est une écoute de l'inconscient qui se fait donc grâce au langage. C'est-à-dire que Freud s'est rendu compte que toute la partie refoulée, c'est-à-dire toute cette partie inconsciente, eh bien, pouvait être écoutée dès l'instant où on se connectait en empathie, certes, c'est-à-dire en neutralité, sur les phonèmes, c'est-à-dire sur les sons. Donc, une séance analytique est une écoute du langage, et on va partir du principe que lorsque le patient vient en analyse, eh bien, il transfère sur l'analyste, ceci de par la méthode analytique, de par la règle analytique, eh bien, il transfère ce que l'on appelle les parents fantasmatiques, c'est-à-dire ces parents objets dont je parlais tout à l'heure. Ainsi, le psychanalyste, s'il fait son travail correctement, mais là ça devient pléonasme, eh bien, devient parent transférentiel. Alors, il est bien évident que l'analyste ne va pas garder à l'intérieur de lui les projections, donc, qui sont expulsées par l'inconscient de l'analysant. Donc, l'analyste va utiliser comme médiateur le langage, et en particulier toutes les ambivalences langagières, c'est-à-dire que nous travaillons sur le sens figuré pour contre-transférer donc le discours du patient. Ainsi, si un patient utilise par exemple, le mot « je », J-E-U, eh bien, effectivement, on peut entendre « je », J-E. Eh bien, le contre-transfert qui se fera à un moment spécifique, bien sûr, de la séance, portera sur « je », J-E. Ainsi, le contre-transfert va toucher ce qu'on appelle le « désir ». Pourquoi ? Parce que c'est élaboré une personnalité faux self pendant les 30 premiers mois de la vie, c'est-à-dire que l'inconscient ne parle pas comme je, il parle comme maman, papa. Le contre-transfert va permettre petit à petit la restitution du vrai self, c'est-à-dire que l'inconscient va livrer non plus de la jouissance, comme disait Lacan, mais du désir. Ainsi, le sujet pourra se réaliser. Alors, vous savez qu'en analyse, se réaliser, ce n'est pas fatalement préparer HEC. se réaliser, c'est être à sa place. Comme disait Lacan, lorsqu'un patient nous dit qu'il est heureux, ça suffit. Donc, vous voyez que l'analyse n'est jamais mise en termes de résultats. Et au contraire, on quitte les schémas liés à l'angoisse de castration qui ont été mis en place donc par l'enfant qui, encore une fois, a eu peur de perdre l'amour de ses parents, c'est-à-dire une espèce de plaisir à s'étayer sur eux. À ce stade, avez-vous des questions à poser ?
Est-ce que vous pourriez réexpliquer le fantasme ? Parce que j'ai un petit peu du mal à le saisir par rapport à ce que vous dites maintenant.
Oui, moi je trouve que ça c'est des questions qui me rendent service parce que j'ai l'impression de partir un peu dans toutes les directions et effectivement. Vous n'avez pas entendu. Donc, une jeune femme demande que je reprécise un petit peu ce qu'est le fantasme. Donc, si on reprend les grandes lignes de ce que j'ai dit, pendant la période intra-utérine, l'enfant se vit un. Il se vit le maître de l'univers, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas conscience de l'extérieur, de l'extériorité. Donc, il se vit aussi bien la paroi utérine, que le cordon ombilical, que lui, mais sans aucune conscience. On dit donc que l'inconscient est prépsychosé à ce moment-là. Il vient au monde, cette rupture, donc appelée angoisse de dissociation en analyse, va amener une espèce de détresse du moi chez l'individu. Et l'enfant, pour survivre quelque part, eh bien, va s'accrocher donc à une pulsion d'autoconservation, notamment la première pulsion d'autoconservation, la succion, l'alimentation. Mais il va très bien se rendre compte, quelque part, il va avoir des perceptions très nettes d'une maman contente ou pas contente. Donc, parce qu'il a aussi déjà un surmoi qui est mis en place, eh bien, il va rentrer dans des notions de jugement, certes floues, abstraites, mais qu'ils vont faire qu'il va chercher à se défendre de cet extérieur, donc, dont il pense qu'il peut être agressé donc, par quelque chose qui n'est pas lui. Donc la mère objet, voire plus tard le père objet. Et pour survivre à tout cela, mais effectivement, s'élabore un monde un peu intemporel et on va dire qu'il anime ses objets d'amour, comme ses objets de haine d'ailleurs. Il passe de l'un à l'autre, c'est la mise en place donc, du clivage de l'objet. Donc le fantasme consiste pour l'inconscient à rétablir un pseudo-équilibre de vie dans le sens d'une possibilité donc, de gérer le monde humain, donc cette extériorité de façon à peu près acceptable pour l'inconscient. Donc le fantasme, si vous voulez, c'est la déformation des parents sujets liée au processus de la défense. Donc, hein.